Nicolas Ferlizzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du World Pensions Council, qui est donc l'association internationale des fonds de pension et des caisses de retraite. Alors c'est vrai qu'on parle, nous sommes ici ensemble à Paris Europlace. On parle beaucoup de ces questions d'investissement long terme pour ces entités, notamment les caisses de retraite. Est-ce qu'on peut dire que, pour commencer, elles ont été gênées, plus que gênées, par cet environnement de taux bas?
Oui, on peut le dire, d'autant que l'environnement de taux bas auquel vous faites allusion a duré très longtemps. Donc les banquiers centraux, à la fois au niveau de la Banque Centrale Européenne à Francfort, de la Banque d'Angleterre à Londres et bien évidemment de la Réserve fédérale à Washington, les banquiers centraux se sont mis d'accord, entre guillemets, depuis le début de cette grande crise à laquelle l'économie mondiale est confrontée depuis, on va dire, la fin 2007, pour maintenir les taux à des niveaux artificiellement bas, ce qui ponctuellement peut être compréhensible pour éviter que l'économie ne s'effondre, pour aider justement à ce que le crédit fluidifie, on va dire, l'économie nationale. Mais par contre, cette politique de taux très bas, artificiellement bas, a duré beaucoup trop longtemps. Et donc c'est là où c'est dangereux, c'est quand ces choix monétaires délibéré de la part des grands argentiers, dure trop longtemps, ça finit par dérégler et déréguler le fonctionnement naturel des marchés financiers. C'est très dangereux.
Pour les fonds de pension, pour les caisses de retraite, l'impératif, c'est de délivrer à leurs retraités et pensionnaires effectivement du rendement. Et tout en investissant sur ces marchés financiers, est-ce que ça les a effectivement, ils ont été contrariés par cette situation?
Très bonne remarque, et vous avez raison de la faire. Je crois que lorsqu'on parle des fonds de pension, des caisses de retraite et des fonds souverains, il faut avoir un regard de comptable. Et donc les imaginer sur deux colonnes. Une colonne actif et une colonne passif. Et donc lorsqu'un fonds de pension va investir en bourse, sur les marchés financiers, dans l'immobilier, etc., ses investissements sont en grande partie déterminés par, donc ses actifs sont en grande partie déterminés par son passif. Et donc son passif, effectivement, c'est les obligations qu'il a, de manière explicite ou implicite, vis-à-vis des retraités et des futurs retraités, des pensionnaires. Et donc effectivement, vous avez raison, il faut qu'il leur serve une pension à la fin du mois. Donc le retraité dans son petit village du fin fond de l'Ardèche, il s'attend à la fin du mois à avoir son chèque pour une somme prédéfinie, prédéterminée, peu importe les fluctuations des marchés financiers, ce n'est pas son affaire, c'est justement l'affaire de la caisse de retraite. Et donc c'est pour ça qu'il faut constamment maintenir une adéquation entre l'actif et le passif. Et donc effectivement, ces taux d'intérêt artificiellement bas sur une période dangereusement longue, c'est un choix délibéré à nouveau des banquiers centraux, ça va avoir un impact dramatique puisque une grande partie des actifs, donc une grande partie des investissements que les caisses de retraite et les fonds de pension ont en portefeuille, ce sont des investissements à taux fixe, des obligations du monétaire, des obligations émises par les États, par les gouvernements. Et donc effectivement, comme le rendement servi par ces actifs s'effondre, eh bien beaucoup de caisses de retraite sont étranglées et n'arrivent pas à remplir leurs objectifs de performance. Donc c'est un problème, c'est un moyen aussi pour les États, si vous voulez, de faire de l'inflation et d'imprimer de l'argent de manière indirecte. Et donc c'est très dangereux et il faut que cette politique de complaisance monétaire cesse, parce qu'il y a un second effet négatif de cette politique, c'est que ça dérègle le fonctionnement naturel des marchés financiers et donc du coup les ajustements ou le couple risque-rendement et la manière dont les gens investissent est artificiellement
Piloter quelque part ou guider vers un...
artificiellement on va dire détourné et c'est pas bien. Alors, est-ce que
Est-ce que les fonds de retraite, puisque là vous étiez hein, sur diversification des investissements à Paris Europlace, justement, de ces fonds de retraite, est-ce qu'ils ont pu diversifier tout de même leurs actifs pour, alors vous dites qu'il y en a effectivement qui sont en très mauvaise situation, mais pour tenir, on va dire, cette durée qui est effectivement très longue de taux bas?
Alors effectivement, la naturelle, les patrons de fonds de pension et de caisses de retraite vont chercher à réallouer une partie de ces actifs justement vers des investissements similaires, donc qui ont un profil de risque ou un couple risque-rendement relativement similaire aux obligations, et qui vont générer justement ce yield, ce rendement annuel, qui va leur permettre de verser des coupons aux retraités. Et donc bien évidemment, la thématique des actifs longs notamment des investissements en infrastructure, est montée en puissance. Et il faut dire que dans cette nouvelle classe d'actifs, entre guillemets, que constituent les investissements en infrastructure, donc ça peut être les ports, les aéroports, les autoroutes, les chemins de fer, clairement, il y avait un certain genre d'investisseurs qui étaient en avance sur le reste du monde. Ce sont notamment les fonds de pension canadiens et australiens.
Qui s'étaient positionnés sur ces actifs et sur ces
très tôt. Voilà, très très tôt, bien avant les autres et bien avant que les autres n'en ressentent le besoin. Et donc du coup, ils ont acquis un savoir-faire considérable dans ce domaine. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que effectivement, si vous possédez une autoroute à péage, pour prendre cet exemple, eh bien les péages que les automobilistes vont devoir payer justement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ça va constituer in fine la somme algébrique de tous ces flux financiers, va constituer quelque chose qui ressemble au coupon d'une obligation qu'une obligation classique vous aurait générée tous les 6 mois ou tous les ans.
Donc on retrouve le besoin d'investissement long terme, par exemple. Donc là, typiquement, dans les infrastructures, on sait que ça va, si on construit un port, si on construit une autoroute, si on construit des services associés, ça va prendre des années. Et il y aura des années derrière d'investissement, mais aussi de rendement.
Tout à fait. Des cycles d'investissement très très longs, avec des revenus en grande partie prévisibles, donc avec un profil de risque somme toute réduit, puisqu'on sait que pendant 30 ou 40 ans, tous les mois, tous les ans, on va toucher environ un certain type de rendement. Donc c'est un investissement stable de bon père de famille. Et à nouveau, la logique est bonne, et c'est très bien que les grands fonds de pension et que les caisses de retraite y viennent, parce que ça coïncide en fait à un moment où beaucoup de nations, notamment dans l'hémisphère ouest et l'hémisphère nord, beaucoup de pays ont des problèmes financiers.
Et ils parlent de plus en plus de ces projets.
Oui, et il y a de moins en moins d'argent dans les caisses de l'État. L'État en général, ça peut être l'État central à Paris ou Washington, mais ça peut être les provinces, ça peut être les États du style la Californie ou l'Ohio, ou les municipalités. Donc les États à tous les niveaux ont de moins en moins de ressources financières à allouer justement pour pouvoir entretenir les infrastructures existantes, parce que le réseau ferré, le réseau routier, autoroutier, le réseau aéroportuaire existant, ça consomme des milliards chaque année, ne serait-ce qu'en entretien, mais également des dizaines de milliards pour créer et construire les infrastructures du futur.
Donc on va avoir une compétition, on peut dire, entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, si on pense à l'Europe uniquement, pour attirer ces capitaux pour les projets d'infrastructure.
Tout à fait.
Il va falloir être le meilleur en Europe.
Tout à fait. Et d'ailleurs, la compétition a déjà commencé. Et il est clair que les Anglais ont pris plusieurs ligues d'avance pour plusieurs raisons. Parce que pour des raisons culturelles et linguistiques, les grands fonds de pension canadiens, australiens ont une affinité avec Londres. La plupart des grands fonds souverains des pays du Golfe arabo-persique, mais également de Singapour et de Hong Kong, sont d'anciennes colonies britanniques et donc ont également des liens forts avec Londres.
Donc il va falloir, si on prend la place de Paris et le Grand Paris, par exemple, qui est un projet important où il y a des sujets d'infrastructure, il va falloir faire œuvre de commerciale forte pour attirer ces fonds.
Oui, oui, il faut clairement que la France fasse des efforts. La France a des atouts. La France a de grands atouts technologiques. Il y a un réel savoir-faire en France dans le domaine de l'ingénierie civile, prenons l'école des ponts et chaussées, qui est sans doute une des meilleures au monde dans ce domaine. Et donc, du point de vue technique et technologique, pour tout ce qui est route, construction, BTP, rail, chemin de fer, Paris a vraiment d'énormes atouts. Je dirais, là où un effort important sera nécessaire et urgent dans les mois qui viennent, c'est au niveau réglementaire, juridique et fiscal.
Ouais, il ne faudra pas que ça soit trop compliqué non plus, qu'il y ait 15 piles d'autorisation pour arriver au projet.
Tout à fait. Et au-delà de ça, il faut que le système juridique et réglementaire dans son ensemble, donc au-delà même de l'infrastructure, il faut que, en général, en finance, en économie, il faut que l'environnement juridique, réglementaire en France soit simplifié, clarifié et stabilisé. Parce que, comme vous l'avez dit, comme ce sont des cycles d'investissement très très longs,
oui,
l'argent est bloqué pendant 10, 20 ou 30 ans et aucun grand investisseur international ne va venir mettre de telles sommes lorsqu'il n'a pas de certitude quant à l'environnement juridique et réglementaire.
Eh bien, on terminera là-dessus. Merci Nicolas Firzi d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous. À bientôt.